on est inscrit dans un héritage, l'autre foi c'est un héritage aussi. Et donc on va voir ce qui s'est passé dans ce chapitre avec Jérémie. Alors juste rapidement pour le contexte, donc on est sous le règne de Sédésias, d'un roi. Le peuple est plongé dans l'idolâtrie. Jérémie avait déjà prévenu le peuple qu'il fallait qu'il s'éloigne de l'idolâtrie, qu'il retrouve entre guillemets le droit chemin, qu'il se détourne de ses idoles pour se tourner vers Dieu. Et le peuple est sourd, donc il y a une première déportation vers Babylone. Et là, au moment où on va lire le texte, il y a un petit reste à Jérusalem qui s'accroche au temple et qui a bien du mal à comprendre la volonté de Dieu. Et Dieu, il va parler au peuple et à Jérémie d'une manière tout à fait particulière. Alors on est vraiment à la croisée des chemins, donc entre un redoutable châtiment qui pèse sur le peuple et que va subir Juda, c'est-à-dire l'exil plus la destruction du temple de Jérusalem, et un merveilleux message d'espérance à venir. Donc c'est la grande confusion, c'est l'angoisse. Jérémie est emprisonné dans la cour et l'Éternel va lui parler. Donc je vais découper en trois morceaux le chapitre 32. Alors on va déjà lire de 32, du verset 1 au verset 15. L'Éternel adressa la parole à Jérémie la 10e année du règne de Sédésias, le roi de Juda, qui correspond à la 18e année du règne de Nabucodonosor. C'est au moment où l'armée du roi de Babylone assiégeait Jérusalem et où le prophète Jérémie était enfermé dans la cour des gardes qui se trouve au palais du roi de Juda. Sédésias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en lui reprochant « Pourquoi prophétises-tu de la sorte ? Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais livrer cette ville au roi de Babylone, qui s'en empare. Et Sédésias, roi de Juda, n'échappera pas au chaldéen. Il parlera directement et qu'il verra face à face. Sédésias sera emmené à Babylone. Il restera jusqu'à ce que je m'occupe de lui. L'Éternel le déclare. Si vous combattez les chaldéens, vous n'arriverez à rien. » Jérémie dit « L'Éternel m'a adressé la parole en ces termes. Anaméel, le fils de ton oncle, va venir te voir pour te proposer d'acheter son champ situé à Anatote, car en vertu du droit de rachat, c'est à toi de l'acquérir. Effectivement, mon cousin Anaméel vint me trouver dans la cour du cours des gardes, comme l'Éternel me l'avait annoncé, et il me dit « Achète s'il te plaît le champ que je possède à Anatote, dans le territoire de Benjamin, car par la loi d'héritage, tu as, en vertu du droit de rachat, priorité pour l'acquérir. Achète-le donc pour toi. » Alors je sus que l'Éternel m'avait bien parlé. J'achetais donc à mon cousin Anaméel le champ qui se trouve à Anatote, et je lui en payais le prix de 17 pièces d'argent. Je rédigeais l'acte de vente, j'y mis mon sceau en présence des témoins que j'avais convoqués, puis je pesais l'argent sur une balance. Ensuite, je pris l'acte de vente qui était scellé, où figuraient les stipulations et les clauses de la transaction, ainsi que l'exemplaire qui était ouvert. Et je remis l'acte de vente à Baruch, fils de Neria, fils de Mazéa, en présence de mon cousin Anaméel et des témoins qui avaient signé l'acte sous les yeux de tous les Judéens qui étaient assis dans la cour du corps de garde. Puis j'ordonnai à Baruch en présence de tous. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Prends ces documents, l'acte de vente qui est scellé et celui qui est ouvert, et dépose-les dans un vase de terre cuite pour qu'ils se conservent longtemps. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Alors que demande Dieu à Jérémie ? Il lui demande d'acheter un champ. Il a préparé le cœur de son cousin, Anaméel. Alors, on est en pleine... l'armée de Babylone a envahi le pays. Ils sont en pleine occupation. La terre, elle ne vaut plus rien. Et Anaméel, finalement, il veut vendre son champ parce qu'il ne rapporte plus rien. Jérémie a le cœur préparé par Dieu qui lui demande d'acheter ce champ. Donc Dieu, il s'inscrit pour parler à Jérémie et à son peuple, il s'inscrit dans une tradition. Il veut parler au peuple à travers cet achat. Donc Jérémie, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit à Dieu, il achète le champ. C'est l'idée vraiment qu'on garde la terre en héritage. Et Dieu, il va utiliser symboliquement l'achat de ce champ pour parler et à Jérémie et au peuple. Ça n'a aucun sens d'acheter un terrain à ce moment-là, puisqu'ils sont appelés à être exilés, ça ne vaut plus rien. Et Dieu demande quelque chose a priori d'absurde. Alors Jérémie, il obéit quand même. Il achète, ils font un premier. Alors il rédige combien d'actes de vente? Vous avez noté combien il y avait? Il y en a deux. Alors c'est la première fois qu'on voit ça à cet endroit-là. D'habitude, il était très courant d'écrire un acte de vente hein, pour qu'il y ait une trace hein, de ce qui était fait. Et le deuxième acte, il lui demande de le mettre dans un vase de terre et de le sceller. Alors probablement, c'est déjà l'idée aussi de fixer la mémoire en héritage. Et puis, c'est l'idée qu'on ne sait pas combien de temps va durer l'exil, la déportation. Dieu a promis qu'on rachèterait des champs, qu'on replanterait des vignes. Mais en attendant, tout prouve le contraire. Alors, en signe d'espérance à venir, Dieu demande de mettre cet acte de vente dans le vase de terre pour qu'il soit scellé, pour fixer la mémoire. Alors symboliquement, le champ pour Jérémie, c'est Dieu probablement lui montre un signe d'espérance fort. Il avait promis à Jérémie qu'il allait l'appeler à détruire les idoles, à dénoncer les infidélités du peuple, mais Jérémie il est aussi appelé à replanter la vigne. Des signes d'espérance, au premier chapitre on le voit. Donc, pour Jérémie, probablement, cet achat qui fait partie du quotidien du peuple, ça va être un signe d'espérance. Dieu nous donne dans notre quotidien, parfois, des petits signes inscrits dans notre quotidien d'espérance, même quand la situation paraît sans issue. Et c'est ce qu'il fait là. Dieu, il est venu parler à Jérémie et au peuple dans leur quotidien. Et pour le peuple aussi, c'est un signe d'espérance, puisque finalement, en rachetant le champ devant témoin, il est dit au verset qu'il y avait tous les Judéens dans la cour. Donc ce n'était pas juste un achat comme ça entre deux, hein, avec juste un ou deux témoins. Il y avait tous les Judéens qui voyaient ça, que Jérémie achetait ce champ, comme signe d'espérance pour le peuple. Alors tout paraît foutu, décimé. Il n'y a plus qu'un petit reste à Jérusalem, il y a une grosse partie qui ont été déportées. Mais Dieu Tout-Puissant, dans sa grâce, donne un signe de vie, de restauration dans le quotidien du peuple d'Israël. Il annonce finalement avec ce chant un triomphe de la foi sur la vue, ce qu'on voit à l'air désespéré, mais par la foi, le signe d'espérance, tout peut changer. Il invite Jérémie et le peuple à marcher par la foi à travers l'achat de ce champ. Alors bon, tout a l'air plié, hein, c'est bon, c'est réglé, on a compris, Dieu il a donné signe d'espérance, tout va acheter encore des maisons, des champs, des vignes, tout va repartir, hein, nickel. Alors oui et non, parce que comme on l'a vu tout à l'heure sur la photo, Jérémie, tout à coup, après tout ça, là, toute cette action, il va s'asseoir. Et puis, mais nous, ça ne nous arrive jamais, il va douter. Il va se dire, quand même, là, il y a un truc qui cloche. Parce que tu m'as demandé de prophétiser, Dieu m'a dit, il fallait que j'alerte le peuple qui était complètement à la dérive. Et là, tu demandes d'acheter un champ. Je ne comprends pas. Et là, va s'installer un dialogue entre Dieu et son enfant, Jérémie. Un dialogue tout simple, comme deux amis qui peuvent parler ensemble. Alors, on va voir comment comment Jérémie parle à son Dieu. Après avoir remis à Baruch, fils de Néria, l'acte de vent, j'adressais cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et en déployant ta force. Pour toi, rien n'est trop extraordinaire. Tu agis avec amour pendant 1000 générations, mais tu châties la faute commise par les pères et leurs enfants. Oui, tu es le grand Dieu, un guerrier qui se nomme le Seigneur des armées célestes. Excellent conseiller, grand en tes œuvres, tu as les yeux ouverts sur tous les actes des hommes et tu rends à chacun ce qui lui valent sa conduite et les effets de ses actions. Tu as réalisé des signes extraordinaires et des prodiges en Égypte et jusqu'à aujourd'hui, au milieu d'Israël et de l'humanité, et tu t'es fait la renommée que tu as aujourd'hui. Toi, tu as fait sortir d'Égypte ton peuple d'Israël par des signes extraordinaires et des prodiges et en déployant ta puissance. En semant la terreur, tu leur as donné ce pays où ruissait le lait et le miel que tu avais promis à leurs ancêtres par serment. Ils y ont pénétré, ils l'ont possédé. Mais ils ne t'ont pas obéi. Ils n'ont pas appliqué ta loi et n'ont rien fait de ce que tu leur avais ordonné. C'est pourquoi tu as fait venir sur eux tous ces malheurs. Voici que l'ennemi met ses terrassements en place contre la ville pour la prendre et en proie à l'épée, la famine, la peste. Elle sera livrée aux Chaldéens qui la combattent. Ce que tu avais annoncé va se trouver ainsi réalisé, comme tu le vois bien. Et toi, Seigneur, éternel, tu m'as dit, achète ce champ à prix d'argent par devant les témoins, alors que cette ville est en train de tomber aux mains des Chaldéens. Toute la première partie, Jérémie est en train de finalement de faire le portrait de ce Dieu. Alors, il y a quelques petits traits de caractère qu'on peut attraper par-ci, par-là. Évidemment, il rappelle et il reconnaît que c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de justice aussi, qui ne tient pas le coupable pour innocent. Et Jérémie le sait bien, ça. Alors il lui dit à Dieu, voilà, je sais qui tu es, je te connais, toi, mon Dieu. Et Jérémie explique sa perplexité, je ne comprends pas. Tu me dis de prophétiser que la ville sera détruite, et en même temps, dans le même temps, tu me dis d'acheter un champ. Donc il y a quelque part pour Jérémie une absurdité entre ce que Dieu lui a demandé de faire et l'état actuel du peuple. Jérémie est en train de se poser une question, dans cet état actuel des choses, c'est quoi comme valeur? Quelle est la valeur de mon achat, finalement? Pourquoi tu me demandes de faire ça? Alors Dieu, il va lui répondre. Mais l'Éternel adressa la parole à Jérémie. Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. En disant ça, il confirme finalement le portrait qu'a fait Jérémie de ce Dieu-là. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi? C'est pour ça. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais livrer la ville aux Chaldéens et à Nabucadnetsor, le roi de Babylone, pour qu'il s'en empare. Oui, les Babyloniens qui la combattent entreront dans la ville, y mettront le feu, ils la brûleront, ainsi que les maisons dont les toits ont servi pour brûler des parfums en l'honneur de Baal et pour offrir des libations à des dieux étrangers, ce qui m'a irrité. Car les Israélites et les gens de Juda n'ont fait de leur jeunesse que ce que je considère comme mal. Les Israélites n'ont fait que m'irriter par tous leurs actes. L'Éternel le déclare. Cette ville a provoqué ma colère et mon indignation. Depuis que l'on a bâti jusqu'à ce jour, je vais l'écarter de ma vue à cause de tous les méfaits commis par les Israélites et les gens de Juda, par lesquels ils m'ont irrité, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres, leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos au lieu de regarder vers moi, alors que je n'ai cessé de les instruire sans me lasser. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas accepté l'éducation, ils ont même installé leur abomination à l'intérieur du temple qui m'appartient. Et ils l'ont ainsi souillé. Ils ont construit des hauts lieux consacrés à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom pour brûler leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch, C'est là une abomination que je n'avais pas ordonnée et qui ne m'était même pas venue à la pensée. Ainsi, ils ont fait commettre un péché à Judas. Le peuple avait mis toute sa confiance dans le temple. C'était un lieu d'idolâtrie. Ils voulaient prendre leur destin en main, leur destin spirituel. Ils étaient finalement devenus leur propre Dieu et s'étaient ainsi détournés de l'Éternel. Dieu il prend le temps de rappeler à Jérémie l'état du peuple. Il le sait, hein, il fait le listing. Et ce rappel, il est important parce qu'il est inscrit dans la mémoire. Dieu n'oublie rien. Et ce texte nous rappelle aussi que, effectivement, il ne tient pas le coupable pour innocent et c'est un Dieu de justice. Et il dit à Jérémie, t'as raison finalement d'avoir prophétisé, tu as fait ce que je t'ai demandé. Et à cause du péché, et parce que je suis un Dieu saint, voilà ce qui s'accomplira. Dieu dit, je sais, je connais l'ampleur des dégâts de mon peuple, mais ma compassion pour ce peuple, elle est grande. Et à travers l'achat de ce champ, c'est un signe d'espérance que je veux poser pour le peuple. Un signe d'espérance et de délivrance. Et ce signe-là, il est vraiment, vraiment inscrit dans leur quotidien. Ce n'est pas un signe surnaturel venu au hasard, c'est un signe qui est inscrit dans leur quotidien. Dieu ne promet pas un simple ravalement de façade pour le peuple. De toute façon, au stade où ils en étaient arrivés, la nécessité de purifier le peuple de toute cette idolâtrie était indispensable. Et quelque part, le seul moyen qu'a trouvé Dieu pour interpeller le peuple, c'est de les priver du temple. Le temple était devenu un lieu de superstition pour le peuple qui s'était accroché à ça. C'était tout ce qui était extérieur qui était devenu important. Et Dieu voulait une révolution intérieure du cœur. Et en enlevant le temple physique aux Israélites, il les forçait quelque part à transformer leur cœur à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce texte, parce que quelque part, c'est un précurseur à, oui, à la nouvelle naissance, à ce travail intérieur du cœur que Dieu demande. Et donc la dernière partie, c'est l'éclatement de l'espérance. Dieu rend le bien pour le mal. C'est pourquoi maintenant, voici ce que déclare l'Éternel Dieu d'Israël à cette ville que vous dites livrée au roi de Babylone par l'épée. Je vais les rassembler de toutes les contrées où je les aurai dispersées. Dans mon indignation, dans ma colère et dans mon grand courroux, je les ramènerai ici pour les y faire vivre dans la sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur accorderai un cœur et une conduite qui me seront entièrement dévoués, afin qu'ils me révèrent toute leur vie durant, et cela pour leur bien et pour celui de leurs enfants auprès d'eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, par laquelle je ne les délaisserai pas, mais leur ferai du bien. Je les amènerai à me révérer de tout leur cœur pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je trouverai ma joie à leur faire du bien, je les planterai ici, dans ce pays. Oui, je le ferai de tout mon cœur et de toute mon âme. Car voici ce que déclare l'Éternel. Comme je fais venir sur ce peuple ce grand malheur, je leur accorderai aussi tous les biens que je leur promets. Et l'on achètera des champs dans ce pays qui est, selon vos dires, un pays dévasté sans hommes ni bêtes et livré aux Chaldéens. On y achètera des champs à prix d'argent. On rédigera des actes de vente que l'on cachètera devant témoins dans le pays de Benjamin et aux alentours de Jérusalem, dans les villes de Juda et les villes de la région montagneuse, dans les villes de la plaine et dans les villes de Néguev. Oui, j'accomplirai leur restauration, l'Éternel le déclare. La dévastation, l'espérance, ce n'est pas un simple ravalement de façade que propose et que promet Dieu à son peuple. C'est une véritable restauration du cœur. Il n'y a pas de précision sur le temps où ça arrivera, où ça va se passer, ni dans la façon dont ça va se réaliser, mais Dieu affirme la restauration. Et la foi, c'est ça, finalement, c'est croire que la restauration est possible, même quand extérieurement, tout semble prouver le contraire. Voilà ce que rappelle ce texte aussi. Parce que les mots-clés, les promesses qui sont données, ce n'est pas du petit lait, c'est des mots forts qui sont donnés, c'est de la sécurité du cœur, la sécurité intérieure, et pour ce peuple-là, et pour nous aussi, c'est l'identité retrouvée. Dieu promet de redonner une identité à son peuple, et une véritable identité. Et se réconcilier avec Dieu aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est retrouver son identité d'enfant de Dieu. Une véritable circoncision de cœur pour un peuple qui avait plutôt une circoncision de façade. Et une circoncision devant témoins et devant toutes les nations. C'est pour ça qu'à la fin du texte, il cite toutes les villes alentour. Dieu prend le temps de citer que son impact, il ne va pas se réduire à Jérusalem et à l'endroit où est le temple. Son impact, elle va se propager aux extrémités de la terre. Alors, il y a une condition à tout cela. Dieu cherche, restaure et pardonne. Il nous le redit dans ce texte-là. Mais le peuple est appelé à prendre ses responsabilités. Une notion de responsabilité individuelle apparaît à ce stade de l'histoire du peuple. Chacun est amené à prendre position, à se réconcilier avec son Dieu. Pour que cette initiative ne soit pas réduite à néant, celui qui est cherché doit chercher à son tour, son âme doit s'approcher du Dieu vivant et est appelé à la repentance, et à cela Dieu promet la connaissance des choses cachées. Donc, pour conclure, je retiendrai juste finalement trois points de ce récit. Alors, quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre, mais le texte quand même le sous-entend, c'est que Dieu ne laisse pas le coupable pour innocent, parce que c'est un Dieu de justice et de sainteté. Dieu est un Dieu qui promet l'espérance et qui accomplit en son temps les choses qu'il a promis. Et aussi, Dieu nous rejoint dans notre humanité et dans notre quotidien. Alors pour nous, ce ne sera peut-être pas l'achat d'un champ, ce sera peut-être autre chose. Mais j'aime à me rappeler que Dieu est un Dieu qui me rejoint dans ma petite humanité et dans mon petit quotidien à chacun, pour me parler et me faire avancer. Et je vous laisserai juste au verset 33 la promesse que Dieu aussi donne à Jérémie. En ce temps-là, à cette époque, je ferai naître un germe juste dans la dynastie de David, et il exercera le droit et la justice dans le pays. En ce temps-là, Juda sera sauvé, Jérusalem vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera: l'Éternel est notre justice.